Yves Tréhard, Nora Hammadi et Charles Consigny vous rejoignent. Bonsoir tous les trois. Vous allez bien? Vous êtes en forme?
Oui, très bien.
Bah, beaucoup de sujets à aborder avec notre invité politique du soir. Bonsoir Laure Lavalette.
Bonsoir.
Vous êtes porte-parole du Rassemblement National, députée du Var. On va parler retraite, on va parler effort de guerre dans un instant. Mais avant, j'aimerais bien avoir juste votre réaction aux conditions qui ont été posées ce soir par Vladimir Poutine lors de son échange au téléphone avec Donald Trump. Il réclame l'arrêt de l'aide militaire occidentale pour poursuivre les négociations en vue d'un cessez-le-feu total. Est-ce qu'il faut accepter cette condition ?
Vous savez, le Rassemblement national demande depuis 3 ans qu'on mette autour de la table les belligérants et les pays occidentaux. Et la stratégie était que l'Ukraine arrive à la table des négociations la plus forte possible, puisque c'est quand on est fort qu'on peut arriver à négocier, parce qu'on se doutait bien évidemment que de l'autre côté, l'agresseur aurait lui aussi des conditions. Donc il faut voir maintenant ce que va faire Donald Trump, lui qui se voulait artisan de paix. Hein, il a été élu ça faisait partie, j'allais dire, de son programme. Je pense qu'on en est qu'au début des négociations.
Mais ça ne ressemble pas quand même à une reddition imposé à Zelensky quand même à l'Ukraine.
De toute façon, ce qui est certain, c'est que jamais un conflit dans le monde globalement se solde par une victoire militaire.
Oui, mais là,
donc il y a un moment, on est bien d'accord. Donc il y a un moment où on met.
Vous êtes d'accord avec ça
Que ça se termine jamais par.
Non, mais que la balance penche.
Il va falloir. Mais je pense qu'on est au début des négociations et le but suprême va être de remonter pour que cette balance soit le plus équilibrée possible et pour que l'Ukraine, je vous dis, c'était ça l'intérêt qu'elle arrive la plus forte possible. Enfin, moi, je me doutais quand même bien que Vladimir Poutine n'allait pas dire tout de suite ok c'est bon, enfin, et de même que Zelensky va continuer ses négociations.
Et si les États-Unis acceptent de céder sur cette condition-là, est-ce que nous Européens on doit continuer de soutenir militairement l'Ukraine?
Écoutez, je pense qu'encore une fois, il faut qu'on se mette tous autour de la table, pour le coup. Je pense que ça ne peut pas être de façon isolée, ce qui d'ailleurs est pas très simple. Vous avez vu, Donald Trump a rencontré d'abord Zelensky, de façon très particulière, avec cette télédiplomatie, qui est une nouvelle façon de faire de la diplomatie, qui, à notre avis, est à l'encontre de ce qui doit se faire, puisque la diplomatie, ça doit être, j'allais dire, pratiquement secret. Là, c'est très, très mis en scène, c'est très à l'américaine.
Enfin, c'est mis en scène de tous les côtés.
C'est une façon de faire. Avec Donald Trump au milieu, c'est sa façon de faire qui effectivement ne nous ressemble pas.
Mais quand il dit je ne veux plus qu'on donne d'aide militaire, parce que c'est en gros quand même ce que Poutine a exigé. Est-ce que vous êtes d'accord pour que l'Europe, la France, ne donne plus d'aide militaire?
Vous savez, Monsieur Tréhard, depuis le début, vous savez bien qu'on a soutenu l'Ukraine, même si certains ont trouvé que nous ne la soutenions pas assez, parce qu'effectivement, nous ne voulons pas que l'Ukraine rentre dans l'Union européenne, puisque c'est ce qui faisait partie, c'était un peu le point d'achoppement. Nous étions évidemment pour une aide matérielle, jusqu'à ce qu'on ne devienne quand même pas co-belligérants. C'est en ça aussi que nous ne sommes pas pour une défense européenne, vous le savez, parce que s'il y avait cette défense européenne, ça veut dire que nos militaires auraient été depuis 3 ans sur le théâtre ukrainien. Maintenant, bien sûr qu'il faut aller soutenir celui qui a été agressé depuis le début, depuis 3 ans, et lui permettre de sortir de ces négociations la tête haute.
Mais justement, s'il n'y a pas de défense européenne que les Européens en ce moment essayent de mettre en place, qu'est-ce qui vous assure que ce ne soit pas la Pologne dans la foulée, les Pays-Baltes? Est-ce qu'à un moment, l'article 5, si jamais les Pays-Baltes sont attaqués, la Pologne, vous dites « Allez, go, on y va ».
Mais vous n'avez pas tort, les Pays-Baltes, c'est une vraie question.
Effectivement, pour eux, oui, c'est clair.
Pour eux, c'est évidemment une vraie question, mais ce n'est pas parce que vous n'êtes pas pour une défense européenne que vous ne voulez pas que chacun des pays, évidemment, renforce leur souveraineté et leur puissance. Il ne faut pas confondre défense européenne, qui voudrait dire diplomatie européenne. On ne peut pas partager sa défense sans partager une diplomatie, et effectivement, nous ne pensons pas au Rassemblement national, que c'est à Ursula von der Leyen de décider sur quel théâtre d'opération nos soldats doivent aller mourir. Et d'ailleurs,
ce serait les pays européens. En l'état, on voit bien que c'est plutôt les capitales.
Non, je ne crois pas. Je ne suis pas sûre. Moi, je pense que l'avenir de la France, ça se construit à Paris, ça ne se construit pas à Bruxelles, ni à Berlin, ni à Washington.
En l'occurrence,
il faut qu'on reste. Non, mais cette espèce de perte de souveraineté, vous savez, elle est là depuis un petit moment. Souvenez-vous, Emmanuel Macron,
en l'occurrence,
vous voulez que nous partagions notre siège au Conseil de sécurité de l'ONU, ce qui pose une vraie question.
Laure Lavalette, en tout cas, il est question en ce moment de renforcer les défenses de chaque État au niveau national. J'aimerais qu'on regarde ensemble cette image d'Emmanuel Macron aujourd'hui qui s'est rendu sur la base aérienne de 116 de Luxeuil-les-Bains. C'est la première base à accueillir la nouvelle version du Rafale et son missile nucléaire supersonique. Il a annoncé que la France allait accroître et accélérer les commandes de Rafale. C'est ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut investir massivement dans notre défense? Quand il dit qu'il faut multiplier par 2 le budget et accéder à un budget de 100 milliards d'ici 2030, vous dites oui?
Vous savez, depuis 2012, Marine Le Pen dit qu'il faut sanctuariser 3% du PIB et elle le faisait sous les quolibets. Elle était raillée, c'était en 2012 et maintenant tout le monde tombe d'accord. Vous savez que si nous étions dans une guerre de haute intensité, je crois que nous avons moins d'un mois de munitions, ce qui poserait une vraie question. Donc, un mois ou vous demandez la parole, Charles ?
Non, je demande la parole parce que j'ai des chiffres intéressants. Mais allez-y, je vous en prie.
Non, et du coup... Tu peux couper dans mon élan quand même.
Alors allez-y, donc doubler le budget. Est-ce que cet objectif pour vous, il est atteignable, mais il faut y aller.
Il faut absolument, effectivement, que ce budget de l'armée soit complètement sanctuarisé. Après, il va falloir réindustrialiser, ce qui ne va pas être simple, parce que on ne passe pas d'une usine de Kleenex à une usine de missiles très rapidement. Donc, il va falloir que.
Là que l'Europe peut être un levier.
Exactement, et on a tout à fait intérêt à ce qu'il y ait des coopérations, comme on a déjà su faire dans le passé avec Ariane, et bien sûr. Mais j'allais dire, il y a aussi une contrepartie. Il aurait fallu que les pays européens achètent des Rafales, par exemple. Ils sont presque tous avec des F-35. À part la Grèce
Et la Croatie. Justement, c'est là où c'est intéressant, c'est dans les discussions en ce moment, la préférence européenne.
Alléluia, il est temps, et évidemment, c'est quelque chose que nous demandions depuis longtemps.
C'est quelque chose que vous saluez aussi, j'imagine.
Bien sûr.
C'est quelque chose que vous saluez aussi, j'imagine.
Évidemment, mais on est tout à fait évidemment pour cette
comme
préférence européenne.
Comme quoi l'Europe peut faire aussi des choses
mais
bien.
Ne nous faites surtout pas croire que nous n'aimons pas cette Europe que nous n'aimons pas, mais nous avons évidemment des projets européens.
Charles.
Non, simplement, j'ai été très intéressé de lire dans les colonnes du Point, désolé Yves, une comparaison entre les forces armées européennes, si on comprend le Royaume-Uni et la Norvège, et les forces armées russes. En réalité, nous avons beaucoup plus d'armement que les Russes dans absolument tous les domaines. Ils ont 1 134 000 soldats, on en a 1 545 000. Ils ont 3 000 chars de combat, on en a 4 425. Ils ont 9 140 blindés légers, on en a 21 900. Et je vous passe les autres chiffres, puisque tous les chiffres sont à l'avenant. Ils ont 35 bateaux de combat, on en a 118. Ils ont 52 sous-marins, on en a 61, etc. etc. Donc, en réalité, l'Union européenne, Royaume-Uni et Norvège compris, elle est militairement... Nonobstant la bombe nucléaire, parce que là, pour le coup, ils ont
après, une défense ne se fait pas en additionnant des chars non plus, donc il y a la question du commandement aussi.
Je dois dire que j'étais dans l'ignorance totale de ces chiffres, et donc je pense que c'est très bien que la France se réarme. D'ailleurs, vous avez pas dit que même Le Pen père, en 2007, proposait déjà ces fameux 3%.
Vous avez vu comme on est constant, donc, quand même. Dans le 3%, le budget de la défense.
C'est exact. Mais l'Union européenne, en réalité, elle peut se défendre. La question, c'est de savoir jusqu'où elle va.
Jusqu'où
c'est pas vraiment nos capacités.
Il y a une confusion qui est faite depuis le début de ce débat, c'est entre la défense et l'armée européenne. Une défense européenne, c'est un des objectifs, c'est d'avoir une défense européenne, ce qui n'a rien à voir avec une armée européenne. Une défense européenne, c'est-à-dire que vis-à-vis d'un ennemi commun, et effectivement, on a une armée qui est très supérieure si on met tout notre matériel en commun à l'armée russe, qui est de toute manière une armée en plus
sans
en
compter mauvais état, technologie, exactement.
En mauvais état. À part la bombe nucléaire, en mauvais état, on a une armée qui est plus performante.
Ouais. Mais encore faut-il qu'on apprenne à fonctionner ensemble.
Cette défense ne veut pas dire qu'on sache effectivement fonctionner ensemble.
Et c'est aussi tout l'enjeu des discussions. C'est tout l'enjeu aussi des discussions. Et l'autre question, c'est celle du financement. Forcément, vous avez vu ce qui s'est passé en Allemagne aujourd'hui. Les députés qui ont donné leur feu vert à ce bazooka budgétaire, comme on l'appelle, qui prévoit au final 1000 milliards sur 10 ans. Donc c'est des investissements massifs, un changement de paradigme total en Allemagne sur la politique budgétaire, sur la politique de défense. Donc là, on est en train d'ouvrir les vannes. Est-ce qu'il faut faire la même chose en France? Est-ce qu'il faut prendre cette direction-là? Peu importe le coût que ça représente, aussi pour les citoyens et pour les contribuables.
C'est pas peu importe le coût. Encore une fois, quand vous avez un budget, c'est comme un bon père de famille, vous faites des choix. Alors effectivement, il y a des économies à faire de certains côtés.
On ne peut pas dire d'un État que c'est un budget de bon père de famille. Enfin, on n'est pas du tout dans les mêmes ratios.
Non, mais c'est gouverner, c'est choisir. Donc, vous avez un budget. L'État a un budget qui est évidemment beaucoup plus gros que celui d'un bon père de famille, mais c'est choisir. Et effectivement, il y a des choix qui sont faits, typiquement sur le nucléaire qui a été abandonné. Je vous rappelle quand même qu'Emmanuel Macron avait été élu au mandat d'avant sur l'arrêt du nucléaire. C'est un choix, par exemple, que nous n'aurions jamais
civil,
fait.
Du nucléaire civil.
Oui, civil. C'est un choix que, par exemple, nous n'aurions jamais fait. Donc, ce sont quand même des choix budgétaires. Le budget, en fait, c'est la traduction comptable de choix politique, évidemment. Et vous imaginez Et donc pour aller
où
aller
chercher où là
il va falloir
sacrer dans quoi.
Non mais on a vous avez beaucoup d'idées quand même sur ce budget. Évidemment vous avez trouvé que c'est assez caricatural, mais ne serait-ce que sur l'immigration par exemple, on a évidemment
c'est pas là vous allez chercher les 50 milliards manquants.
Non, on va faire beaucoup, vous savez, sur tout ce qui est donné aux énergies intermittentes, là le plan de 100 milliards là sur ces énergies intermittentes avec les 37 milliards qui vont permettre simplement
les énergies
raccordement des éoliennes en mer. Mais écoutez-moi, excusez-moi, mais les 37 milliards de raccordement, uniquement de raccordement des éoliennes en mer jusqu'au réseau,
ça leur la valette complètement. Vous savez bien que
c'est le prix de deux porte-avions.
Très bien.
C'est le prix de deux porte-avions.
Si on fait un peu de géopolitique dans les moments qu'on est en train de traverser.
Porte-avions, c'est pas mal pour la géopolitique.
Non, bien sûr, mais si on fait de la géopolitique, vous savez que l'uranium, en fait, on n'en produit pas. Comment est-ce qu'on fait pour avoir des énergies qui nous garantissent une souveraineté sur lesquelles on ne dépend pas de pays étrangers qui peuvent poser
est-ce que vous pensez que là la menace a été le manquement d'uranium? Je ne crois pas.
Ça risque de
l'avenir. En tout cas, ça ne l'est pas. Et pour revenir sur les porte-avions, on a un seul porte-avions, il est en hyper pour 18 mois assez souvent. Il y a un moment où on est presque, j'allais dire, à poil. Et il y a effectivement des choix à faire. Et les 37 milliards sur ces éoliennes, je vous dis, c'est deux porte-avions avec même les gens qui travaillent dessus dont les salaires sont pris en charge.
Est-ce que ces choix...
Ce sont des choix, nous n'aurions pas fait des éoliennes en mer.
Très bien. Est-ce que ces choix, ça passe aussi par une augmentation des impôts? Ça doit passer
Non, mais bien sûr que non. On n'est évidemment pas sur une augmentation des impôts. Avant ça, il faut déjà que l'État se serre la ceinture. Non. Il faut peut-être faire le tri des 1200 agences de l'État qui valent 80 milliards par an. Vous voyez, il y a d'autres endroits où aller couper. On ne peut pas demander aux Français de payer les mauvais choix politiques et de payer ne serait-ce que ces choix politiques qui ont laissé l'armée de côté pendant trop longtemps.
Est-ce que ça doit passer par un effort sur notre système de retraite? C'est la question qui a été soulevée par François Bayrou, qui a dit effectivement ce week-end que dans ce contexte géopolitique, c'était inenvisageable de revenir sur un âge de départ à 62 ans. Certains ont dit que c'était peut-être une maladresse. Finalement, aujourd'hui, devant les députés, il confirme, il persiste. On écoute.
J'ai été interrogé pour savoir s'il était à mes yeux possible, au détour d'une interview, qu'on en revienne à la retraite à 62 ans, c'est-à-dire à la suppression de la réforme des retraites. Et j'ai répondu que je considérais que ça n'était pas possible. Pour beaucoup de raisons frappantes, je rappelle que ceux qui sont autour de la table se sont engagés, ou en tout cas ont été engagés, à ne pas dégrader l'équilibre financier du système de retraite.
Est-ce pour le RN un motif de censure?
En tout cas, ce que je pense, c'est que c'est de la malhonnêteté intellectuelle et qu'à aucun moment, François Bayrou a pensé revenir à la retraite à 62 ans. Je pense que c'était un écran de fumée pour éviter d'être sanctionné par les socialistes et de faire en sorte que les socialistes arrivent à se dégager un peu d'LFI. Je pense que ça, c'est très, très malhonnête intellectuellement.
Mais les conséquences de ça, je vous posais la question, parce que j'entendais Laurent Jacobelli qui disait que ça fait partie des éléments qui peuvent faire pencher la balance vers la censure. Donc vous y réfléchissez.
C'est vrai que là, ça commence un peu à pencher de ce côté-là. Vous savez que les Français n'en voulaient pas de cette retraite, de cette réforme des retraites que nous trouvons iniques. On pense qu'il y a d'autres façons de faire. Vous le savez bien, relancer la natalité d'un côté et relancer aussi la productivité, la natalité, parce que tout notre système de retraite, il est pensé, il sort des Trente Glorieuses, il est pensé avec une natalité florissante qui n'est évidemment plus le cas. Donc on veut relancer cette natalité avec des mesures simples comme que le deuxième enfant soit par exemple une part fiscale pleine. Et à côté de ça, réindustrialiser le pays. Vous savez que mon collègue Alexandre Loubet est à la tête d'une commission d'enquête sur la réindustrialisation du pays ou comment les autres ont désindustrialisé le pays.
Que je comprenne bien, Laure Lavalette, ça veut dire qu'à ce stade, ce n'est pas un motif de censure, donc l'abrogation de la réforme de retraite, ce n'est plus une priorité pour vous.
Vous savez, c'était le premier texte de notre niche, et bien sûr, mais vous savez, nous n'avons pas gagné les élections, véritablement, ça ne vous a pas échappé que nous ne sommes pas encore aux commandes. Ce sera une des premières...
Vous avez un levier d'action qui est la censure.
Non, mais c'est intéressant quand même parce que, d'abord, qu'est-ce qui fait que la France est désindustrialisée, Madame Lavalette?
7 ans de Macronie, Monsieur Consigny.
Non, parce que malheureusement, ça fait pas 7 ans qu'elle est désindustrialisée.
Il y a une accélération, quand même.
Ça remonte bien avant. C'est parce que, notamment, le coût du travail en France fait que c'est très, très difficile de payer des ouvriers en France, d'être rentable quand vous produisez quelque chose en France. Pourquoi il y a ce coût du travail en France? Parce qu'il faut payer les retraites. Le coût du travail, c'est essentiellement des cotisations de sécurité sociale et de retraite. Pourquoi est-ce que on ne peut pas porter notre effort de guerre aussi loin qu'on le voudrait? Parce qu'on doit financer ce système social dans lequel il y a aussi les retraites. Donc, je trouve que votre programme, il trouve vraiment ses limites dans votre incapacité à mettre les Français face à la réalité. Vous avez un programme qui consiste un peu à dorloter les gens, à conforter les Français dans ce qui leur va bien et à ne jamais les mettre face au mur du réel. Et ben le mur du réel, c'est effectivement les menaces géopolitiques qui font qu'il faut augmenter nos dépenses de défense, et c'est aussi le fait que bah oui, il faut reculer, reculer l'âge de départ à la retraite si on veut garder ce système, parce qu'on ne peut pas avoir à la fois des usines et la retraite à 60 ans. Alors, il faut choisir entre les deux.
Deux choses. La désindustrialisation, elle vient aussi du fait qu'il fut un temps, nous étions un paradis énergétique, figurez-vous, et qu'avec l'arrêt du nucléaire, l'arrêt, le désamour, notamment d'Emmanuel Macron avec le nucléaire, bah maintenant, on paye l'électricité bien plus cher que nous la produisons. Et si nous arrivons à redevenir ce paradis énergétique, je peux vous assurer que ça va...
On n'a pas fermé toutes nos centrales non plus.
Non, mais... enfin, fermer Fessenheim pour arriver à réouvrir Saint-Avold centrale à charbon. Merci Elisabeth Borne, autant vous dire que je trouve ça quand même tout à fait malheureux. Pour en revenir aux retraites, il faut savoir qu'il y a une personne sur deux qui arrive à l'âge de prendre la retraite qui est sans emploi. Donc en fait, effectivement, ce sont des cotisations qui ne rentrent pas puisqu'ils ne travaillent pas, mais ça veut dire que ce qui ne rentre pas d'un côté avec un âge de retraite qui est plus bas, vous le dépensez aussi de l'autre avec de l'assurance vieillesse, maladie et chômage. Donc en fait, c'est un faux programme, c'est un faux problème. Mais par contre, c'est un choix philosophique, un peu un choix de société. Nous, on pense que quand vous avez commencé à travailler, on met le paquet sur les carrières longues, quand vous avez commencé à travailler entre 17 et 20 ans, vous pouvez partir à 60 ans avec 40 annuités.
Et pourquoi ne pas faire sauter la mesure d'âge?
Parce que c'était pas ce qui était dans notre programme. Voilà, parce qu'on avait un autre programme qui était ficelé, qui était, budgétisé. Là, c'était 62 ans avec 40, enfin, c'était, donc 17 à 20 ans, vous avez bien compris, c'était 60 ans avec 40 annuités, et après c'était progressivement 42 annuités jusqu'à 62 ans d'âge légal. Mais je rassure les gens, si on veut travailler après 62 ans, on pourra évidemment continuer à travailler après 62 ans. Mais voilà, c'est un choix philosophique, on pense que quand on arrive à la retraite,
il y a une telle compétition mondiale aujourd'hui que si la France en est à se poser simplement la question de savoir si elle veut faire la retraite à 60, 62, 63 ans, on sera tout simplement balayé de la compétition mondiale.
Mais à un moment, on ne sera jamais en capacité. Ben oui, mais alors attendez, mon cher Charles, on ne pourra jamais être compétitif face au Bangladesh, face à d'autres pays.
Alors attendez, parce que là, il y a un paramètre. Pardonnez-moi, mais il y a un paramètre qui entre en compte et qui est. Excusez-moi, Nora, mais il y a un élément nouveau, parce qu'on ne va pas refaire tout le débat sur les retraites. Non, mais on ne va pas refaire tout le débat sur les retraites. C'est pas l'enjeu ce soir, on va pas y passer la soirée, mais c'est que l'argument qui est avancé par le gouvernement, par François Bayrou, c'est de dire il y a un contexte géopolitique aujourd'hui particulier, on doit faire un effort budgétaire, on doit revoir nos priorités. Il n'est pas le seul à le dire. Édouard Philippe dit ce conclave, il est hors sol, le président du corps du Conseil d'orientation des retraites.
Déjà avant, Édouard Philippe est pour la retraite à 67 ans. Édouard Philippe est pour la retraite à 67 ans, donc c'est pas le contexte géopolitique qui va faire changer les choses. Je veux dire, il faut quand même être constant aussi, évidemment, dans ce que nous racontons. Ils n'ont jamais été pour une retraite à 62 ans. Voilà. Nous, on avait un budget qui était, on a un projet de réforme de retraite qui était budgété. Encore une fois, c'est un choix politique. Nous le mettrons en œuvre le jour où nous accéderons au pouvoir. Pour l'instant, voilà, c'est pas nous. On l'a mis à la niche. Il n'a pas été voté.
Est-ce que vous n'êtes pas en train, avec l'histoire des retraites, en train de faire la même erreur que vous avez faite sur l'Europe? Il y a maintenant presque 10 ans. Sur l'Europe, vous plaidiez à l'époque de façon assez vive pour sortir de l'Europe, pour sortir de l'euro et pour sortir de l'Europe. Vous êtes rendu compte que c'était assez casse-gueule, pour employer un mot, si vous me permettez l'expression, et que ça faisait peur, notamment aux retraités précisément, qui disaient « Oh là là !» Mais si on sort de l'euro, nos pensions de retraite ne vont plus rien valoir. Donc vous avez changé de braquet petit à petit. Et aujourd'hui, vous vous trouvez dans une situation où vous êtes plutôt européen, même si c'est pas l'Europe d'aujourd'hui. Enfin, l'Europe fédérale, loin de là. Et avec les retraites, est-ce que vous n'êtes pas aussi aujourd'hui un peu embarrassé? Vous ne traitez pas ça un peu comme un boulet? Vous n'êtes pas loin de la marche première sur le podium, et il y en a beaucoup qui se disent, dans les milieux que vous aviez réussi à capter, notamment dans la bourgeoisie, qui voyait en Monsieur Bardella quelqu'un qui pouvait peut-être avoir un avenir, eh bien vous disiez, vous aviez trouvé, vous étiez acheté une nouvelle respectabilité. Et avec ce poids de dire, bah, il faut revenir sur la réforme de l'âge de la retraite, du départ à la retraite. Vous êtes en train, eh bien, de scier un peu la branche que vous étiez en train de faire pousser. Et ça pourrait, eh bien, pour vous, être un handicap majeur, parce que c'est complètement, je suis d'accord, la démonstration de Charles, elle est implacable, c'est irréaliste, votre histoire.
Ça ne l'est pas. Vous savez, ce budget, il n'a pas été écrit sur un coin de table. On a des économistes qui travaillent avec nous. Et pour revenir sur votre, je vous assure, pour revenir sur votre question, vous nous avez fait déjà le même coup à la fin. De nous dire qu'on s'était trompé, qu'on avait fait des mauvais choix. Pareil quand on avait fait tomber le gouvernement. Il se trouve quand même que les Français nous font très confiance, puisqu'à chaque fois qu'il y a un sondage qui sort après la réforme des retraites, après la censure du gouvernement, Marine Le Pen et Jordan Bardella sont toujours très très en tête. Donc non, je ne crois absolument pas que ce soit un piège. Non. Bien au contraire, cette réforme des retraites, elle est inique et les Français n'en veulent pas. Je pense que ça, on est tous d'accord autour de ce plateau.
J'aimerais
en convenir.